affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Le 30 janvier dernier, c'est-à-dire il y a un peu plus de 3 mois, l'Organisation mondiale de la santé a prononcé un état d'urgence de portée mondiale en raison de la pandémie de coronavirus. Auparavant, nombre de responsables politiques espéraient que, comme autrefois avec les épidémies de SRAS, de H1N1 ou de virus Ebola, il ne s'agirait que d'un événement régional. Mais il a fallu déchanter. Le Covid-19 s'est bien répandu à la surface de la planète tout entière, si bien qu'aujourd'hui, au-delà de ses conséquences sanitaires, on comprend qu'elle aura des conséquences sur l'ordre international, des conséquences géopolitiques. Mais lesquelles et de quelle ampleur ? Rien d'évident. Plongé dans le feu d'un événement qui bouleverse nos vies personnelles, nous sommes portés à une certaine emphase. Conscients de vivre un événement historique, nous estimons volontiers que cette crise va tout bouleverser et qu'il y aura un avant et un après Covid-19. Nous imaginons déjà que cette pandémie va rejoindre les grandes césures de l'histoire mondiale, la chute de Berlin, l'implosion de l'URSS, les attentats du 11 septembre ou encore la crise financière de 2008. Peut-être. Mais reste alors à définir à quoi ressemblera demain, à déterminer en quoi il sera différent d'hier. Reconnaissons que chacun tente à analyser cet événement à l'aune de ses désirs, de ses craintes, de ses colères ou de ses préjugés idéologiques. Les collapsologues y voient l'effondrement espéré par eux de la société industrielle. Les souverainistes, une preuve de l'incurie de l'Union européenne. Les mondialistes, un appel à renforcer la gouvernance mondiale. Et les populistes, un signe annonciateur de la fin de la mondialisation. Pour notre part, nous sommes persuadés que pour saisir ce moment, il faut l'inscrire dans le temps long, le mettre à distance et garder la tête froide. C'est pourquoi nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui Thierry Montbrial, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, président fondateur de l'Institut français des relations internationales, qui depuis 40 ans déjà s'attache à défendre une vision justement réaliste des relations internationales. Monsieur, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour.
Monsieur, dans votre dernier livre, titré « Vivre le temps des troubles », vous écriviez que le présent est la zone floue de recouvrement entre le futur et le passé. Du coup, avez-vous le sentiment que notre présent, l'instant présent, représentera bien une césure historique, qu'il y aura un avant et un après Covid-19?
Alors, il y a plusieurs aspects dans votre question, parce que quand j'écrivais cela, c'était une remarque philosophique. Par exemple, même dans le temps physique, si vous prenez l'instant T est une fiction mathématique sur le plan du vécu, mais même dans la réalité physique. C'est-à-dire que tout ce que nous appelons instant T, à quelque échelle que ce soit, c'est le prolongement d'un passé et c'est déjà le début d'un futur. Donc le moment présent n'existe pas, c'est d'ailleurs une quasi-banalité aussi sur le plan psychologique. Et ceci, quelle que soit l'échelle de temps, quand vous regardez historiquement, prenez n'importe quelle période de temps, par exemple, je ne sais pas, le XXe siècle. Bon, le XXe siècle, ça a très largement le prolongement des siècles précédents. Il y a déjà en neuf le XXIe. Voilà. Alors ça, c'est l'aspect, on va dire, philosophique, qui est d'ailleurs passionnant en soi et mériterait des développements. Alors, l'expression courante, il y a un avant et un après, c'est celle qu'on utilise dans les grandes catastrophes personnelles ou collectives. Vous avez un accident de voiture qui change votre vie, et il y a évidemment un avant et un après, c'est ce qu'on dit couramment. Une guerre, une grande guerre, il y a un avant et un après. Bon, c'est finalement assez banal comme expression. Alors, est-ce que le Covid-19 va être une véritable rupture ? Je ne le pense pas. En ce qui me concerne, je ne le pense pas du tout même. C'est une épreuve qui nous impressionne pour deux raisons. La première, c'est que nous avions totalement perdu l'habitude des grandes épidémies. On s'est rappelé soudain qu'il y en avait une il y a un siècle, un peu plus d'un siècle, qui était la fameuse grippe espagnole. Et on s'est souvenu qu'elle a tué plus de 2 fois le nombre de mort de la Première Guerre mondiale elle-même, et vous remarquerez qu'on l'avait oublié. Et d'ailleurs, c'est une petite incidente, les morts sont souvent morts non pas du virus lui-même, mais de ses conséquences à travers des infections. À une époque, il n'y avait pas d'antibiotiques. Enfin, c'est un petit point de détail, mais qui n'est pas sans intérêt. Voilà. Mais donc, de ce point de vue-là, c'est pas un événement totalement nouveau. C'est un événement qui réactive une mémoire oubliée. Voilà. Alors, bien sûr, ça nous perturbe, ça a toutes sortes de conséquences. Est-ce que ces conséquences vont être aussi radicales que celles des grandes guerres, ou même, puisque vous avez cité ça, la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire la fin du monde bipolaire et l'entrée dans le système international actuel? Personnellement, je ne le crois pas, mais on peut développer ça, bien entendu.
Il semblerait qu'à travers cette crise précisément, on voit quand même un certain nombre de puissances prendre des positions, choisir un positionnement par rapport à cette crise, avancer leurs pions, et notamment, mais là, ça précédait justement cette crise, on voit se structurer quand même l'affrontement ou la rivalité entre d'un côté la Chine, sur laquelle les projecteurs ont été braqués, bien sûr, et les États-Unis. Une petite incise d'ailleurs pour montrer que le temps long c'est important. L'IFRI était donc fondé il y a 40 ans, c'était en 1979, et 1979, c'est le moment, si je ne me trompe pas, où la Chine décide de créer des zones économiques exclusives qui sont exonératoires du collectivisme. C'est bien cela ?
Oui, alors, 1979, c'est une année d'ailleurs où il y a eu énormément de choses, puisque les années 70 avaient été des années plutôt heureuses sur le plan de la détente. À l'époque, la Chine ne préoccupait personne, soit dit au passage. Les grands problèmes, c'était les problèmes Est-Ouest, dans le cadre traditionnel du conflit Est-Ouest, qui était à l'époque États-Unis, Union soviétique, ou Occident, Union soviétique. Donc la fin des années 70, c'était une année de durcissement. Ça a été l'année aussi de la révolution iranienne. Juste après, ça a été 1980, la grande crise en Pologne et l'entrée des soviétiques en Afghanistan. Vous voyez, ça a été la relance de la dernière phase, de la dernière grande phase de la guerre froide, qui a duré jusqu'à la chute de l'Union soviétique, la chute d'abord du mur de Berlin et la chute de l'Union soviétique. Tout cela s'étant passé en 1989-91. Alors, puisque vous vous référez, et la Chine à l'époque, bien sûr, les spécialistes qui suivaient ça, et nous à l'IFRI bien sûr, d'autant plus qu'avant j'avais moi-même été le premier directeur du centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères en France, que nous avons créé en 1973. Vous voyez, c'est encore un autre monde, mais nous étions suivis évidemment de très près la fin de la période maoïste, la mort de Mao en 1976, la chute de la bande des quatre, hein, tout ça réveillera des souvenirs à certains de nos auditeurs, et finalement la victoire des réformistes, l'arrivée de Deng Xiaoping, et en effet donc la mise en place de ces méthodes d'ailleurs classiques, hein, pour relancer des économies moribondes, les zones économiques exclusives, etc. Alors, mais en 79, et même d'ailleurs 10 ans après, la Chine est encore très faible, extrêmement faible. Donc la préoccupation chinoise, elle s'est développée progressivement. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes, depuis quelques années, mais particulièrement depuis le nouveau mandat, le second mandat de Xi Jinping, nous sommes dans une phase de tension forte entre les États-Unis et la Chine, et de plus en plus entre l'Occident et la Chine. Mais ça ne date pas du coronavirus. Nous avons célébré ce 40e anniversaire de l'IFRI l'an dernier, donc très exactement d'ailleurs il y a un an, on a fait une grande manifestation au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne le 10 avril, pour être précis, de l'an dernier. Et qu'est-ce que nous avions choisi comme thème ? À l'époque, personne ne songeait à une pandémie. Qu'est-ce que nous avons choisi comme thème ? C'était l'avenir de l'Union européenne face à la rivalité sino-américaine. Bon. Donc le problème, il ne date pas d'hier. Il ne date absolument pas d'hier, ce qui revient à votre question initiale, c'est-à-dire l'avant et l'après. La tension ne vient absolument pas d'hier. Et également des épidémies venues de la Chine, c'est quelque chose, hélas, d'assez fréquent, soit dit aussi au passage. Alors, ce qui s'est passé, simplement, c'est que cet épisode, l'épisode actuel, a plutôt exacerbé certaines tensions. Mais cet épisode ne les a pas créées.
Cette crise serait donc un révélateur plus qu'un perturbateur de l'ordre international. Les lignes de force restent les mêmes.
Les lignes de force restent les mêmes, mais elles ne vont pas rester totalement les mêmes non plus. Ce que je suis en train de dire, simplement, c'est qu'il n'y a pas de changement brusque. Vous voyez que les tensions, pour simplifier, disons pour l'instant sino-américaines, hein, on parlera à part de l'Union européenne, parce que là le jeu n'est pas exactement le même. Mais pour simplifier, parlons des États-Unis et de la Chine. Les tensions économiques ne datent pas d'hier. En fait, les États-Unis ont joué pendant très longtemps. Il faut dire que les Chinois eux-mêmes avaient une diplomatie extrêmement intelligente, mais les Américains ont joué plutôt le développement de la Chine. L'admission, je rappelle, de la Chine dans l'OMC date de 2001. Hein, il y a eu 15 ans de négociations avant, d'ailleurs. Enfin, c'est 2001. Et les Américains ont beaucoup utilisé ça parce que ça leur permettait, au fond, de produire beaucoup de biens industriels à bas prix, à bas coût, avec une main-d'œuvre à bon marché, et ensuite d'exporter des produits industriels finis, des machines, etc. Et les Chinois, qui sont pas nés idiots, ont utilisé tout ça pour développer aussi leur savoir technologique et autres. Alors, ce qui est vrai, c'est que progressivement, la Chine a grandi. Progressivement, la Chine est devenue même la seconde puissance économique du monde. Elle a dépassé le Japon. Et les Américains ont progressivement pris peur. Là aussi, ça s'est fait progressivement. J'insiste sur le mot progressivement, parce qu'en 2001, quand M. George W. Bush, le fils de son père, de H.W. Bush, qui était le premier président Bush de la tribu, et quand il est arrivé au pouvoir, il avait voulu mettre l'accent sur le danger chinois, puis c'est à ce moment-là, la même année qu'il y a eu en 2001, l'affaire des attaques sur les tours de New York qui ont dévié la trajectoire politique extérieure des États-Unis. Mais enfin, il y avait ce souci des Chinois, mais il a été mis un peu entre parenthèses, et ces dernières années, il s'est considérablement accru. Et il faut dire que, de ce point de vue-là, l'élection de Trump a changé les choses, parce que Trump, avec son style très personnel, s'en est pris directement et en dehors, on peut le dire, de tous les usages diplomatiques traditionnels aux Chinois. Donc nous en étions là, vous voyez. Donc la crise actuelle, elle n'a même pas été le révélateur, parce que les tensions sino-américaines, elles sont extrêmement fortes depuis des mois et des mois et des mois. Et simplement, elles sont exacerbées, renforcées, d'autant plus que Trump et de plus en plus Xi Jinping ne parlent de plus en plus crûment.
Il y a une thèse développée par un géopoliticien américain, il appelait ça le piège de Thucydide, qui nous explique que lorsque une puissance est montante et une autre déclinante, le risque que ces deux puissances en viennent à la guerre est absolument renforcé. Donc il se réfère à Thucydide parce que c'est ce que l'historien Thucydide avait remarqué quant à la rivalité entre Sparte et Athènes. Pensez-vous que nous en sommes à ce moment de l'histoire ?
Alors, le cas naturellement de Sparte et Athènes est classique. D'ailleurs, c'était celui auquel Raymond Aron se référait constamment quand il parlait de la guerre froide. Alors, la personne dont vous parlez, il s'appelle Graham Allison, est un professeur de Harvard, a en effet soutenu cette thèse, qui est une thèse classique. Alors, il a analysé une soixantaine, je crois, d'exemples historiques pour arriver à la conclusion, qui est une conclusion en probabilité. Il ne dit absolument pas qu'il y aura une guerre entre les États-Unis et la Chine. Il dit simplement que ça lui paraît l'hypothèse la plus vraisemblable. Bon, ça, ce sont des éléments un peu subjectifs. Alors, je vais vous dire sur cette question. Je crois d'abord que, comme toujours, il faut distinguer le court terme, le moyen terme et le long terme. À court terme, disons les toutes prochaines années, une guerre entre les États-Unis et la Chine est extrêmement peu vraisemblable. Il faut bien voir que la Chine a essayé depuis l'époque à laquelle vous vous référiez, depuis 40 ans, c'est-à-dire depuis Deng Xiaoping, depuis l'entrée dans les révolutions, dans les réformes économiques, elle a essayé de développer une politique étrangère aussi paisible que possible, précisément pour pouvoir avoir un environnement favorable à son développement économique. Bon. Aujourd'hui, ce développement est allé assez loin, mais il est encore loin d'avoir atteint le stade où la puissance chinoise pourrait se comparer à celle des États-Unis. Il faut bien voir ça. Pour les Chinois, il est encore beaucoup trop tôt pour pouvoir envisager un conflit majeur avec les États-Unis. Sur le plan militaire en particulier. Donc, le rapport de force, si vous voulez, aujourd'hui, ne serait pas favorable à la Chine s'il devait y avoir un affrontement majeur. D'autre part, ce serait catastrophique pour les Américains eux-mêmes, parce que la mondialisation est un fait, c'est-à-dire que l'interdépendance est un fait, une interdépendance qui a changé de nature et pas seulement de degré depuis la révolution digitale. Et les États-Unis et la Chine continuent de se bagarrer économiquement et si l'on entre, et ça, on va en revenir au coronavirus à travers ça, dans une période de démondialisation, Le risque que ce ne soit aux dépens de toutes les économies interdépendantes, est absolument énorme. Donc, on se trouve aujourd'hui dans une phase un peu intermédiaire où les Américains, et pas seulement eux, ont pris pleinement conscience d'une dépendance devenue excessive à l'égard des Chinois. Mais en même temps, ils ont tous besoin, tout le monde a besoin d'un minimum de coopération pour que les disputes économiques, commerciales, etc., ne dégénèrent pas, je le répète, au détriment de tous. On est tous comme enchaînés, si vous voulez. C'est ça le problème. Alors, s'agissant de la crise économique, provoqué par le coronavirus. Alors là, nous sommes dans le court terme, tout à fait le court terme. On est dans une situation où, en effet, sans précédent depuis, en tout cas, l'entre-deux-guerres, et sans précédent non plus du point de vue des causes de la situation actuelle, nous sommes dans la situation où la préférence générale qu'il y a eu limiter le nombre de morts dans tous les pays atteints par le coronavirus a entraîné une sorte de stoppage quasi général des économies. Bon, ce scénario-là est unique. Hein. Sur ce plan-là, on a un scénario sans précédent. Voilà. Alors, le redémarrage de ces économies qui sont soit très alanguies, enfin, soit très ralenties en tout cas, et dans certains cas extrêmement ralenties, je pense à la France typiquement à cet égard, pour relancer ça, on ne peut pas le faire vraiment tout seul, parce que si vous relancez je sais pas moi, la production de voitures. Et si vous n'avez plus de débouchés pour vos voitures, ni à l'extérieur, ni d'ailleurs à l'intérieur, parce que on se met à fermer les rues aux voitures dans les grandes villes, vous voyez à quoi je pense, à ce moment-là, vous n'allez jamais pouvoir relancer. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin, même de court terme, pour le redémarrage d'économies mises en panne du fait des choix publics qui ont été effectués à court terme face aux conséquences du coronavirus. Bon, et maintenant, à plus long terme, alors, si on se place du point de vue du long terme, les choses sont très différentes, parce que du point de vue du long terme, il y aura sûrement des réajustements sur la manière dont les principaux pays, y compris européens, conçoivent les degrés admissibles d'interdépendance. Bon, quand vous vous apercevez que 80% de l'industrie pharmaceutique est délocalisée, et plus spécifiquement dans deux pays qui sont l'Inde et la Chine, ça fait un peu froid dans le dos. Quand vous regardez un peu dans le détail la ridicule affaire des masques, ça conduit aussi à des impressions un peu bizarres. Maintenant, si vous regardez encore plus en détail la dépendance qui s'est développée aux États-Unis et naturellement en Europe vis-à-vis de la Chine pour un certain nombre de produits industriels ou d'équipements qui sont stratégiquement sensibles, eh bien là aussi, ça conduit à se poser des questions. Alors là, je crois qu'il va y avoir en effet beaucoup de réflexions et de réorientations pour diminuer, non pas pour abolir l'interdépendance, non pas pour abolir la mondialisation, mais pour diminuer les degrés de dépendance. Mais je répète, je suis convaincu que ces choses-là auraient eu lieu de toute façon. Donc elles peuvent être accélérées par l'histoire, par l'épisode du Covid-19, mais je ne crois pas que les problèmes aient été créés par cet épisode. Et c'est une nuance.
Donc on ne sortirait pas de la mondialisation, mais de la mondialisation sans frein, de la mondialisation comme idéologie en quelque sorte.
Et c'est exactement ça. Quand on se reporte au début, par exemple, du siècle, n'est-ce pas, c'est-à-dire la première décennie du siècle, nous étions dans une phase idéologique qui était absolument folle, n'est-ce pas, la mondialisation idéologique. Et rappelez-vous qu'à ce moment-là, les grandes entreprises, américaines ou non, se considéraient comme supérieures aux États. C'est-à-dire, c'était l'époque, et il en est resté quelques traces chez un certain nombre de grands patrons, en tout cas les grands patrons de cette époque, pas seulement américains, considéraient qu'ils faisaient un grand honneur aux chefs d'État des pays qu'ils visitaient en leur rendant visite. Donc, c'était l'époque où un certain nombre de gens glosaient sur l'abolition, la disparition des frontières, le monde plat, l'expression est d'un journaliste américain très connu qui s'appelle Thomas Friedman, qui a écrit un livre qui s'appelle The Flat World, le monde plat. Et effectivement, cette phase de l'idéologie de la mondialisation, comme on dit souvent, de la mondialisation libérale, pour souligner encore cet aspect idéologique, cette idéologie-là, elle est passée. Mais je ne crois pas. Donc, l'affaire de la pandémie, je pense qu'elle accélère les prises de conscience, mais qui étaient déjà là. Elle va accélérer un certain nombre de transformations, mais elles étaient déjà là. Alors, tout ce que je vous dis, évidemment, doit être aussi relativisé par rapport à ce qui va advenir de cette pandémie qui n'est évidemment pas terminée. Alors si on suit les optimistes, les épidémiologues ou épidémiologistes, je ne sais pas ce qu'il faut dire, comme Didier Raoult, devenu célèbre, et qui pense qu'on est déjà dans la phase descendante et que tout ça va se calmer dans les prochains mois, quitte à ce que ça revienne plus tard comme les grippes saisonnières qui viennent aussi chaque année. Bon, si cette thèse relativement optimiste prévaut et si entre-temps on a trouvé des médicaments et a fortiori des vaccins, le souvenir de et si, il y a beaucoup de et si, on est arrivé aussi à relancer les économies sans trop de peine, à ce moment-là, l'épisode en question laissera évidemment des traces, et des traces positives aussi, parce que ça nous apprendra aussi à mieux nous préparer contre d'autres, les autres pandémies qui adviendront un jour ou l'autre de toute façon, parce que les pandémies sont toujours venues dans l'histoire. Mais enfin, vous voyez, ça ne restera d'aucune manière comme une date aussi importante que la chute de l'Union soviétique dont on parlait tout à l'heure.
Alors, puisque nous en sommes à la... Vous parliez d'un certain nombre de prises de conscience nécessaires, il y a certainement un retour d'expérience à faire sur la gestion de cette crise, et elle concerne aussi les institutions internationales, parce que je veux dire qu'on est parfois un petit peu sidéré de voir les dysfonctionnements qui ont mené à l'extension de cette crise, qui aurait probablement pu rester régionale avec une meilleure gouvernance. On est un peu sidéré de voir qu'une organisation comme l'Organisation mondiale de la santé, ou l'ONU de façon plus globale, ou encore, il y a un grand nombre d'organisations qui servent à la coopération, à l'alerte mutuelle à l'échelle planétaire, qui à l'évidence ont dysfonctionné. Une réforme s'impose, non ?
Alors, il y a plusieurs éléments dans la question très importante que vous soulevez. Le premier point, c'est que quand on dit que ces choses-là n'avaient pas été prévues, c'est tout simplement faux. La question de la possibilité et même de la vraisemblance d'une pandémie avait été soulevée par un grand nombre de gens. Et on s'est aperçu, par exemple, qu'en 2015, si je ne me trompe, il y a 5 ans, par conséquent, Bill Gates lui-même avait fait une grande conférence avec tout son arsenal de communication sur le sujet. Il avait même montré 2 images, celle d'un champignon atomique et celle d'un virus qui ressemble fort au coronavirus. Et il avait dit, le danger, ce n'est pas la guerre atomique, c'est une pandémie. Bon, ça, c'était il y a 5 ans. Bon, et tout, je peux vous dire, pour avoir participé moi-même à un certain nombre d'exercices de livres blancs de défense nationale, etc., ce genre de scénario était envisagé par tout le monde. Bon, donc là, nous avons une question qui n'est pas liée aux organisations internationales en particulier, c'est que vous pouvez faire toutes les prévisions que vous voulez, si ça n'est pas ressenti par les décideurs et par les populations qui sont derrière comme un véritable danger, parce que c'est trop abstrait, vous n'aurez aucun effet. Tout simplement, vous n'aurez aucun effet. Et je rappelle également, ça a été amplement commenté dans la presse, l'affaire des masques de Roselyne Bachelot. Donc ça, c'est un point. Ce qu'il faut voir derrière tout ça, c'est que dans le monde de la complexité, et là, j'emploie le mot « complexité » dans sa signification profonde, on peut faire des prévisions du genre il y aura des tremblements de terre dans sur telle ou telle ligne de fracture dans le monde, donc on connaît bien ces lignes à cause de la tectonique des plaques, etc. Mais on est toujours incapable de prévoir avec précision la date de tel ou tel tremblement de terre particulier. Vous voyez, le problème ici, c'est qu'il faut distinguer entre la prévision d'un événement et la date de sa réalisation. Si je dis « tous les hommes sont mortels », eh bien, je n'apprends rien à personne. Bon, je suis mortel, vous êtes mortel, simplement, ni vous ni moi, a priori, ne connaissons la date de notre mort. Donc, il n'y a pas de... Bon, voilà. Alors, si je dis en Californie, la faille San Andreas, il y aura sûrement des tremblements de terre dans les années qui viennent, c'est déjà plus précis. J'ai moi-même d'ailleurs vécu des tremblements 2 fois, au moins, des tremblements de terre, dont l'un assez significatif sur la faille en question, bon, qui a été totalement imprévu la veille encore. Donc là, on est dans les choses plus précises. Hein. La probabilité d'un tremblement de terre sur la faille Andreas est considérablement plus élevé que le tremblement de terre à Paris. Donc c'est pas, on a des connaissances là-dessus, mais on ne sait pas dater. Bon, les phénomènes politiques, économiques d'ailleurs aussi, sont extrêmement complexes. Ça veut dire qu'on peut envisager toutes sortes de choses, mais on ne sait pas non plus prévoir, pour employer un autre vocabulaire, les signes noirs, vous voyez. Donc ça n'est pas lié aux qualités ou aux défauts des organisations internationales. Alors, cela étant dit, vous avez raison sur le fait que les organisations internationales sont absolument nécessaires, parce que si on fait de la coopération internationale sans organisation derrière, eh bien, on privilégie toujours le court terme et l'immédiat. Bon, les hommes politiques vivent dans l'immédiat, donc on se réunit pour savoir ce qu'on va faire demain. Et les démocraties, de ce point de vue-là, ne sont pas favorisées, puisque l'horizon des démocraties est très court. C'est l'horizon de la prochaine élection. Bon.
Oui, j'allais vous le dire, Xi Jinping, lui, pense à 2049 et au centenaire de la République populaire de Chine.
Mais bien entendu, et non seulement ça, mais le système politique chinois, et en ce sens-là, d'ailleurs, il est resté confucéen ou néo-confucéen. C'est un pays aussi que je visite extrêmement régulièrement depuis 1976, pour être très précis. Donc, mon premier voyage était en pleine révolution culturelle. Moi, j'ai eu une admiration considérable pour le système, l'organisation, si vous voulez, des pouvoirs publics. Là, je ne porte pas un jugement idéologique, je parle en termes d'efficacité. Du système chinois, qui a d'ailleurs les réformes qu'ils ont accomplies sont absolument incroyables, si vous laissez là. Donc ils ont un avantage énorme. Alors, si on veut vraiment augmenter, prendre au sérieux le long terme dans l'interdépendance, et ça je crois que c'est vital, parce que nous sommes devenus de plus en plus interdépendants, comme on le disait tout à l'heure, la mondialisation, etc., mais nous n'avons pas les instances de coordination qui nous permettrait de réduire les risques qui sont les risques systémiques qui sont liés à la complexité de cette interdépendance. Vous voyez, c'est là que je fais le lien avec ce que je vous racontais à propos des tremblements de terre et autres. Or, pour ça, il faut des institutions, il faut des organisations. Or, les organisations internationales qui existent, il y en a quelques-unes qui ont été créées après la Seconde Guerre mondiale, enfin le système de l'ONU, mais aussi, je pense au système par exemple, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, qui ont assez bien fonctionné. Le Fonds monétaire international, aujourd'hui encore, d'ailleurs, fonctionne plutôt bien. Mais ces institutions sont affaiblies pour deux raisons aujourd'hui. La première, c'est que les bureaucraties tendent toujours à s'ossifier, ou à se calcifier, si vous voulez. C'est une des caractéristiques fondamentales des bureaucraties, parce qu'elles ne sont pas soumises à la concurrence, enfin pour toutes sortes de raisons bien connues. Mais l'autre raison, et les deux sont sans doute liés à un certain degré, l'autre raison, c'est que les puissances, de plus en plus, ont voulu à la fois bénéficier de l'interdépendance, mais tout en conservant leur totale liberté. Et les organisations internationales sont aussi des boucs émissaires extrêmement faciles quand quelque chose ne va pas, et les États-Unis en particulier, la culture américaine ne va pas du tout dans ce sens-là, dans le sens des organisations internationales, si on met à part les 40 années exceptionnelles de 1949 à 1989, en gros, qui ont été celles de la guerre froide et où les États-Unis se sont investis de façon cohérente et continue dans la lutte contre l'Union soviétique. Donc il y a effectivement un problème majeur c'est pourquoi, je le répète encore une fois, il faut bien distinguer le court terme, le moyen terme et le long terme. À court terme, il faut retrouver un minimum de coopération pour se sortir de l'ornière, c'est-à-dire de la situation immédiate. À long terme, il y aura des corrections dans la mondialisation. Chacun voudra limiter un peu sa dépendance et ce genre de choses. Mais même une mondialisation corrigée, en quelque sorte, ne pourra survivre sur le long terme que s'il y a des modes de coopération qui s'intéressent au long terme, qui traitent le long terme, et pour cela, il faut des organisations internationales fortes et efficaces. Et la question clé, c'est la question de l'efficacité.
On ne peut pas terminer cette émission sans faire quand même une projection et s'interroger sur la place de la France et de l'Union européenne dans ce nouveau concert des nations et dans ce monde d'après, même s'il ne sera pas radicalement différent du monde d'hier. Comment voyez-vous le rôle de la France et ses atouts, ses handicaps et ceux de l'Union européenne? Désolé, il y a à nouveau deux questions en une.
Non, mais c'est il pourrait même y en avoir trois. C'est évidemment une question essentielle et je vous disais que c'est exactement pour ça que nous avions choisi pour notre 40e anniversaire ce thème, l'avenir de l'Union européenne face à la rivalité sino-américaine. Alors, ou la compétition sino-américaine. Alors, effectivement, on n'a pas le temps de faire le tour du monde, mais quand vous regardez l'ensemble des forces en jeu aujourd'hui dans le monde, ce sont incontestablement les États-Unis et la Chine qui dominent le jeu, et c'est donc eux qui vont donner le « là » des relations internationales pour un certain nombre d'années. Malgré tout ce qu'on a pu dire, l'Inde, le Japon, et on pourrait continuer la liste, ne jouent pas dans les mêmes catégories, ne sont pas dans la même catégorie.
Et nous non plus, c'est ça ?
Alors, si vous parlez de la France, c'est une évidence. Alors, la seule entité qui pourrait devenir un facteur de stabilisation face à cette concurrence, qui est une concurrence, vous avez rappelé les thèses de Graham Allison, le piège de Thucydide, etc. Bon, même si on peut penser actuellement qu'on n'en est pas là, cette concurrence peut devenir à certains moments extrêmement dure. D'ailleurs, je fais une incidente, le seul domaine où il pourrait y avoir une vraie guerre serait à propos de Taïwan. Mais je referme la parenthèse aussitôt parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans ces considérations-là. Alors, effectivement, si l'Union européenne parvient à corriger ses défauts, à se renforcer, je crois qu'elle a un avantage énorme et qui lui confère un réel soft power, comme on dit, une forte attraction vis-à-vis du reste du monde, c'est que c'est une zone de prospérité économique, hein, malgré les difficultés, et c'est pas seulement de prospérité économique en tant que flux courant, c'est une richesse en patrimoine, en particulier culturel, qui est considérable, qui fait que l'Europe attire énormément le reste du monde. L'Europe incarne une démocratie qui, même si elle nous paraît bien inefficace souvent et bien exaspérante à de nombreux égards, elle n'en a pas moins une très grande force elle exerce une très grande force d'attraction. C'est certain que vous et moi, j'imagine, nous préférons être citoyens français que citoyens chinois ou nord-coréens. Bon, donc ça est une réalité. Alors, il est facile de critiquer l'Union européenne. Le grand problème de l'Union européenne, c'est que nous sommes une collection, un groupe d'États qui cherche à se rapprocher d'une manière volontaire et non pas par sous l'effet d'une puissance hégémonique, les gouvernances démocratiques, effectivement, répondent à des calendriers différents d'un pays à l'autre. Et nous sommes aussi attachés à nos souverainetés. Nous sommes tous des États-nations. Et Jacques Delors parlait des fédérations d'États-nations. C'est une jolie expression, mais la réalité est plus dure. Et d'autre part, avec la chute de l'Union soviétique, pour moi, vous avez bien compris, c'est la chute de l'Union soviétique qui est la grande la grande division entre l'avant et l'après, pour le coup, pour moi, politiquement, le XXe siècle s'arrête avec la chute de l'Union soviétique, et après une période un peu indéterminée, le XXIe siècle, pour moi, toujours, commence en 2008. Pourquoi 2008 ? C'est parce que c'est la grande crise économique, grande crise financière, qui a rappelé au monde, y compris aux économistes devenus très orgueilleux, que l'idée qu'on avait réglé tous les problèmes économiques aussi de façon harmonieuse, que des retours à des grandes crises seraient impossibles, etc., etc., était une utopie totalement injustifiée. Voilà. Alors, en 1989-90, nous sommes trouvés, nous, dans l'Union européenne, devant la situation très imprévisible. J'en reviens toujours à la question de la prévisibilité dans la complexité, qui est que cet effondrement soudain de l'Union soviétique, on savait que tout empire finit par s'écrouler, mais à quelle date exactement, on ne pouvait pas le dire. Et là, on a été quasiment obligé d'élargir brusquement l'Union européenne, qui s'appelait encore Communauté européenne, à tout un ensemble de pays qui sortaient de 50 ans de communisme. Bon, absorber ça, c'est pas facile. Alors, si on veut être un peu optimiste, je dirais que le fait que 30 ans après, nous survivions, l'Union européenne ait survécu, et qu'elle ait finalement franchi relativement bien toutes sortes de crises, y compris la crise financière dont j'ai parlé, c'est pas si mal que ça. Mais la construction européenne est une entreprise de longue haleine. Soit le traité de Rome, et ça fait 70 ans, ce n'est rien du tout à l'échelle du temps long. Mais voilà, je crois qu'il n'y a pas d'alternative à l'Union européenne face à la compétition sino-américaine. Si l'Union européenne, par malheur, devait se désintégrer, à ce moment-là, je crois que le risque du piège de Thucydide deviendrait beaucoup plus grand.
Est-ce que vous ne pensez pas que dans ce cadre-là, ce qui manque quand même à l'Union européenne, au-delà d'une identité, on comprend que ce n'est pas très facile, puisque, comme vous l'avez dit, c'est une réunion d'États, et d'États qui ont une histoire tous très ancienne, c'est un projet, parce qu'après tout, on peut aussi se construire sur un projet. Or, et une stratégie, un projet à moyen terme, disons, quelque chose à porter.
Bien sûr, c'est un projet idéologique. D'ailleurs, alors là, pour le coup, on est vraiment dans la géopolitique. Pour moi, la géopolitique, c'est l'idéologie relative au territoire. Donc, la construction européenne est un projet géopolitique. Parler de stratégie est beaucoup plus difficile parce qu'il n'y a pas de stratège dans la construction européenne. Il y a beaucoup de gens qui pensent dans des directions différentes, etc. Mais ce qui fait que ça marche plus ou moins quand même, c'est justement l'idéologie. Et c'est l'idéologie qui rassemble beaucoup plus que la stratégie, qui s'adapte un petit peu au jour le jour en fonction des considérations. Alors, je pense que, si vous prenez par exemple le cas du franco-allemand, je pense que même si les Français et les Allemands s'exaspèrent mutuellement tous les jours, ils en arrivent toujours à la conclusion qu'ils sont condamnés à s'entendre, parce que c'est leur intérêt mutuel et c'est l'intérêt du reste de l'Europe. Donc, nous sommes devant ce genre de situation où il faut continuer d'avancer. L'une des grandes difficultés, c'est que quand quelque chose va mal, il est très facile, si on cherche un bouc émissaire, de dire c'est la faute de l'Union européenne, c'est la faute des bureaucrates de Bruxelles, etc., etc., etc. Vous voyez ? C'est-à-dire que nous sommes trop facilement, nous, Européens, dans l'autodérision et dans le masochisme.
Alors, s'agissant de la France, si vous avez encore 5 minutes, parce qu'on a répondu à la première partie de la dernière question, il s'agissait de l'Union européenne. Pour la France, quelle devrait être si l'Union européenne ne peut pas avoir une stratégie précise, qu'en est-il de la France? Quelles devraient être les priorités pour retrouver sa place à la fois dans l'Union européenne et dans le monde dans les mois et les années à venir? Quelques priorités peser, exister encore?
La grande, si je reprends la France et l'Allemagne sur laquelle j'étais tombé dans la dernière intervention, c'est tout à fait intéressant parce que l'Allemagne, on le voit même d'ailleurs dans la gestion du Covid, L'Allemagne n'a pas de grands projets géopolitiques. Elle est toujours très timide sur ce genre de questions. Vous n'entendrez aucun Allemand faire des discours sur la géopolitique mondiale. Ça, on laisse ça aux Français. Donc, l'Allemagne ne présente pas de grandes visions très prudentes sur ce plan-là, mais elle est efficace dans l'ensemble. Elle est efficace. Nous, nous sommes très bons dans la vision, dans les discours, et nous sommes inefficaces. Bon, le drame de la France, c'est son inefficacité globale, j'entends. Macron est arrivé à l'Élysée avec l'idée de changer tout ça, de conduire de grandes réformes pour mettre la France à jour, faire les réformes qui s'imposaient. Et malheureusement, entre les gilets jaunes et maintenant les grèves de diverses et variées et maintenant la pandémie, l'horizon de la fin de son mandat se rapproche et on risque fort de terminer le mandat avec un bilan très limité en matière de réforme. Et ce qui se passera après, personne n'en sait rien à l'heure actuelle. Alors voilà, si vous voulez, le drame de la France, c'est son inefficacité. Je parle globalement. Quand vous voyez, et là je ne me situe absolument pas sur le plan de la polémique, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais quand vous voyez que le coût du système hospitalier français est pas tout à fait comparable, peut-être même supérieur à celui de l'Allemagne, et que vous comparez les deux, vous êtes un peu étonné. Bon, quand vous voyez que la France bat tous les records que l'on sait en matière de fiscalité et de dépenses publiques et de transferts surtout, et que vous voyez aussi l'état déprimant dans lequel se trouvent nos hôpitaux, nos prisons, notre éducation nationale, etc., etc., vous êtes en droit de vous demander ce qui ne va pas. Donc, voilà, et c'est le mal français, et là vous voyez bien que je fais allusion au titre d'un livre célèbre de Perfit, le mal français est toujours là. C'est là le problème. Et moi, je pense, je ne pense pas, je crois, je suis sûr, qu'un pays qui n'a pas la force économique ne peut pas exercer un véritable leadership. Pour exercer un leadership sur le plan international, il faut avoir une certaine force. Et la force, que ce soit militaire ou autre, s'appuie sur l'économie sur... De bonnes structures économiques et sociales.
Écoutez, je ne suis pas là pour donner mon avis, mais j'ai effectivement parfois l'impression que nous sommes dans la situation de la Prusse après la défaite d'Iéna, et que le choix est entre un grand chantier de réforme et de volonté de mise à jour, ou le déclin. On sait que la Prusse avait été parvenue à mener ses réformes, mais il faut souhaiter que nous y parvenions aussi. Si je résume... pour peser encore demain et exister, avant d'avoir de grandes idées, il faut d'abord se retrousser les manches.
On peut dire les choses comme ça. Disons que le chantier ne fait que s'accroître.
Merci Thierry de Montbrial.
Merci à vous.
La conclusion est conforme à la façon dont je vous présentais, du réalisme avant tout.
Alors je vous dirais ceci, c'est que oui, je me définis volontiers comme un réaliste, mais je dirais pour nos amis qui nous écoutent, que le réalisme n'a rien à voir avec le cynisme. Trop souvent, on confond les deux. Je suis tout sauf cynique, pour ce qui me concerne. Être réaliste, ça n'est pas manquer d'idéal. Ça n'est pas être inattentif à l'éthique. Être réaliste, c'est simplement essayer de voir et de comprendre le monde tel qu'il est, c'est la conviction qu'on ne peut pas avancer si on ne part pas d'un constat, d'une compréhension de la situation qui soit une compréhension juste, c'est-à-dire factuellement correcte. C'est ça le réalisme. Donc oui, je me reconnais tout à fait comme réaliste, mais je le répète, d'aucune manière comme cynique.
Certainement, et nos auditeurs pourront le vérifier en se plongeant dans votre ouvrage, qui est une introduction aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Votre dernier ouvrage, « Vivre le temps des troubles », qui est paru chez Albin Michel, et qui est une excellente introduction à la complexité du monde contemporain et à venir, que vous aviez évoqué pendant l'émission. Merci encore.
Merci à vous. Thank you.